Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Nous allons parler d'agriculture dans cette émission et plus précisément de l'agriculture périurbaine, celle qui se déploie autour ou même à l'intérieur de la métropole toulousaine. Il existe des espaces, des exploitations agricoles sur le territoire métropolitain et ils participent à l'approvisionnement alimentaire de Toulouse Métropole. On a beaucoup parlé de production locale, d'agriculture et de commerce de proximité, de circuits courts pendant la période de confinement. Tout le monde était d'accord à ce moment-là pour dire à quel point ces activités étaient essentielles et qu'il était nécessaire de les soutenir et de les développer. C'est d'autant plus nécessaire que le développement d'une agriculture de proximité, c'est aussi moins de transport et donc une moindre empreinte carbone. Voilà pour la théorie, reste à voir ce qu'il en est de la pratique, d'où provient l'approvisionnement alimentaire de la métropole toulousaine. Quelle place y tient l'agriculture de proximité? Quelle politique, quelles actions mène Toulouse Métropole dans ce domaine? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre lors de ce numéro consacré à l'agriculture périurbaine, à l'alimentation et aux circuits courts dans la métropole toulousaine. Et il y a un élu toulousain et métropolitain qui connaît très bien toutes ces questions, c'est Jean-Jacques Bolzan, que je remercie pour sa présence dans ce studio et à qui je souhaite également la bienvenue. Alors Jean-Jacques Bolzan, vous êtes adjoint au maire de Toulouse, délégué à ce qu'on appelle le bien-manger. Vous êtes aussi conseiller métropolitain, conseiller régional et président de la Fédération des marchés de gros de France, membre aussi du comité de pilotage du grand marché mine Toulouse-Occitanie. Beaucoup de casquettes donc pour un seul homme, mais qui montre aussi combien vous êtes investi dans tout ce qui concerne notre sujet du jour. Peut-être pouvez-vous tout de même donner quelques précisions sur le contenu de vos délégations à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, entre autres sur ce que recouvre celle dite du bien-manger.
Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, vous dire que cette délégation du bien-manger qui a été créée à la ville de Toulouse par Jean-Luc Moudenc, pourquoi ? Parce que l'alimentation aujourd'hui, on s'en est rendu compte encore plus avec le Covid, prend une place importante dans notre société, dans la façon de consommer. Aujourd'hui, on veut consommer mieux, on veut consommer local, bio, pourquoi pas. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait une identification de cette volonté politique. Elle est faite à la mairie de Toulouse par cette délégation au bien manger, qui comporte les cuisines centrales, 35 000 repas par jour, la régie de Candy, qui gère aussi, il y a le domaine de Candy, 32 hectares plus 220 hectares que l'on gère en culture céréalière, oléagineuse et autres. Et ensuite, il y a les marchés de plein vent et les marchés couverts, les halles couvertes. Et ensuite, ces liens avec la ruralité, entre la métropole et la ruralité, puisque le but, c'est de trouver, de créer de nouvelles initiatives, même si certaines sont déjà en cours, mais de les développer beaucoup plus, pour mettre en lien à la fois les acteurs de la restauration collective, de la restauration commerciale, des commerces de bouche, avec des producteurs. Et quand on sait que dans cette région Occitanie, on a une variété de produits sous signe de qualité des plus maximum par rapport à d'autres régions où il n'y a que la monoculture. On est vraiment dans une capitale régionale où le bien manger a tout son sens. Et pour ce faire aussi, Jean-Luc Moudenc a créé une délégation à la métropole, à l'agriculture et l'alimentation et l'agriculture urbaine pour montrer vraiment cette volonté politique.
Commission dont vous êtes membre à Toulouse Métropole. Merci, je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Maintenant, nous développerons tous ces points dans quelques minutes avec vous. Le domaine de Candy, vous pouvez nous donner peut-être plus de détails sur ce domaine.
La régie de Candy, le souhait que l'on a pendant ce mandat, c'est de dynamiser, de faire venir beaucoup plus d'écoliers, beaucoup plus de Toulousains qui viennent découvrir ce site, soit par le biais d'animation, soit en faisant venir bien sûr des interprofessions qui pourraient présenter leurs produits. Je pense par exemple à l'interprofession des vins du Sud-Ouest qui pourrait expliquer comment on fait le vin en lien avec nous, avec notre vignoble sur place, faire découvrir aussi le vin de Candy, faire avec la filière viande, faire des animations aussi avec toutes les filières. Il faut que cette régie de Candy, que ce lieu, ce domaine de Candy soit un peu la ferme régionale typique que tout Toulousain peut aller voir en faisant venir éventuellement, en y mettant des animaux aussi, pourquoi pas.
Voilà, alors oui, ça c'est une question, on y reviendra justement sur ces aspects animaux, l'élevage. En préambule, je voudrais qu'on donne quelques chiffres pour avoir une idée de ce que représente aujourd'hui la production agricole locale périurbaine dans l'approvisionnement de la métropole toulousaine. Alors quand je dis des chiffres, c'est peut-être plutôt des pourcentages. Qu'est-ce que nous consommons qui vient vraiment de l'immédiate périphérie de la métropole toulousaine? Quel type de production?
Alors on a moins de 5% de la production locale sur Toulouse en consommation. 95% c'est hors production locale. Donc vous voyez qu'il y a un énorme chemin à faire, qu'il y a un travail intéressant à mener aussi, hein, et un développement à faire. Effectivement, le Covid, j'espère, a fait prendre conscience aux personnes, à tous les habitants, tous les métropolitains, qu'il fallait beaucoup plus consommer local, parce que quand il y a une crise, eh bien, on voit bien que les producteurs sont là, que les agriculteurs répondent à la demande. Donc il faut maintenant l'organiser. Ça, c'est pas aussi simple que cela, mais il faut le faire parce que 5%, c'est vraiment pas adapté. Sur les espaces agricoles, sur la métropole, sur le territoire métropolitain, ça représente un quart du territoire, ce qui est quand même important. 11 000 hectares, 85% en grande culture, 300 hectares en maraîchage. Donc là aussi, ça fait une base de travail. Il faut travailler beaucoup plus sur la protection de ces zones agricoles et puis voir quel type de culture on peut développer. Plutôt le maraîchage, parce que c'est des terres fertiles que l'on a quelquefois. Hein, quand on fera un fenouillet, Blagnac, les quinsols, on en reparlera.
Et historiquement, voilà. Ce sont des
donc,
terres de maraîchage.
De maraîchage, donc il faut revenir un peu aux vraies valeurs de la terre. Et ensemble, avec tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, chambres d'agriculture, région, État, eh bien, il faut travailler en ce sens, tout le monde uni.
Un projet global et tout le monde autour de la table pour tirer dans le même sens.
C'est cela.
Vous parliez justement donc des productions locales et de la métropole, donc avec ses, je le répète tout de même, 11 000 hectares, un quart du territoire métropolitain donc qui correspond à des espaces agricoles. Quelles sont les communes métropolitaines où il y a des exploitations agricoles de taille assez importante?
Alors vous savez, on a 39 exploitations en bio sur la métropole. Le reste, c'est en agriculture conventionnelle ou autre. On a des exploitations sur l'ensemble de la métropole et dans toutes les villes. Quelle que soit la ville, eh bien, il y a des exploitations agricoles. Nous, on a Toulouse, même la ville est le premier exploitant, hein, puisqu'avec la régie de Candie. Mais on a des fermes partout, on a des terres disponibles dans toutes les communes. C'est pour cela que là aussi, il faut avoir un projet commun métropolitain, et c'est la nouveauté de cette délégation. C'est de dire, voilà, sur la métropole, on a des terres qui peuvent être inondables, donc non constructibles aussi, et très riche au point de vue sol. Donc, on va faire un état des lieux pour voir avec les maires où est-ce qu'on peut créer et mettre en place des agriculteurs, qu'ils soient maraîchers ou autres, de façon à alimenter encore plus la métropole et à faire du circuit court tel qu'on le souhaite. Parce que tout le monde veut manger des carottes de proximité, des haricots ou autres, mais encore faut-il qu'on ait des gens qui les cultivent. Et pour ça, il faut aussi revaloriser ces métiers. Le métier de maraîcher, par exemple, entre autres.
Alors, comme vous parliez des terres encore inexploitées sur les communes de la métropole, est-ce qu'il existe un document ou une charte pour les protéger, pour préserver le foncier agricole métropolitain?
Alors, Toulouse avait signé à la Chambre d'agriculture en 2012 une charte, justement, pour protéger au niveau du PLUIH, le plan local d'urbanisme, entre autres termes. Mais je crois qu'il faut aller plus loin en termes de protection et qu'il faut avoir une étude sérieuse, peut-être en plusieurs temps, déjà protégée en zone d'activité agricole protégée que l'on appelle en ZAP, qui est beaucoup plus forte que les zones A que l'on appelle au PLU, notamment les fermes que l'on a déjà, les fermes urbaines que l'on a. Pense à Kenfonce-Grive, Salsas, la ferme bio, donc déjà protéger toutes ces fermes, l'existant. Et après, avoir une étude qui nous montrerait qu'est-ce qu'on pourrait protéger et qui soit quand même viable économiquement. Est-ce que c'est à Pêche-David, Gabarty, Ginestous, dans quelle ville? Est-ce qu'à Castelginès, il y a une zone agricole protégée à mettre en œuvre? Tout ça, ça va se discuter avec les maires des communes pour arriver quand même à un certain seuil qui soit viable économiquement pour l'ensemble des acteurs qui voudraient se positionner sur telle ou telle ville et exploitation.
Ce serait une sorte d'étude de marché, en quelque sorte.
Oui, une étude de marché pour savoir où est-ce qu'on peut finalement mettre ces zones agricoles protégées, sachant aussi qu'il faut garder des terres qui ne sont pas nécessairement agricoles, qui pourraient le devenir, l'être ou autre, avec l'urbanisme, parce que vous savez qu'on est une métropole qui attire le plus aujourd'hui d'habitants, donc il faut tout concilier, mais il faut, si on veut vraiment avoir cette volonté de développer les circuits courts et une production locale en crise, il faut avoir sur la métropole, bien sûr, protéger ces terres. Mais après, il ne faut pas être dupe et il ne faut pas être utopiste. Ce n'est pas parce qu'on va protéger des terres ou qu'on va cultiver plus sur la métropole qu'on va pouvoir nourrir les métropolitains. Hein. Il faudrait 1000 hectares de maraîchage, pour vous donner un ordre d'idée, 1000 hectares pour nourrir 10% de la population métropolitaine en 2050. Donc on est obligé, et c'est beaucoup plus réaliste, et c'est mieux d'ailleurs que la métropole s'ouvre vers le monde rural pour maintenir cette diversité de production que l'on a en Occitanie. La métropole est consommatrice. Et donc après, il faut organiser la logistique et la fédération de ces producteurs, voilà, pour arriver à ce que le monde rural aussi puisse bénéficier des richesses de la métropole.
Et les territoires ruraux de notre région.
C'est ça.
Alors vous avez parlé de certains lieux ou projets. Alors il y a la ferme de Salsa à Quinfonce-Grive, la ferme bio à Bordes. Est-ce qu'il y a d'autres lieux emblématiques de l'agriculture périurbaine locale dans la métropole?
Oui, il y a les 15 sols à Blagnac, qui est justement en cours de mise en œuvre de la zone agricole protégée, avec 3 maraîchers aujourd'hui, 50 hectares, avec un potentiel de 140 hectares, en bordure de Garonne, donc c'est vraiment le lieu idéal pour le maraîchage. Là aussi, on a travaillé le marché de gros de Toulouse, le MIND, le grand marché que l'on appelle, où on a mis ces maraîchers en lien avec des grossistes, pour que les grossistes puissent acheter ce que vont produire ces jeunes maraîchers qui se lancent. Ils savent que la production qu'ils vont avoir, eh bien, sera vendue. Ça permet de les lancer pendant quelques années, puis après à eux de développer leur économie et leur entreprise. Il y a aussi les Isard 3 Cocu avec la ferme bio, où là, quand même, c'est bien établi. Voilà, on a 2,5 hectares au total. Voilà, là, on a une veille attentive. On a le projet de parc naturel agricole en périurbain à Pembalma. Là, je dois rencontrer très prochainement le maire en lien à la Chambre d'agriculture pour voir qu'est-ce qu'on pourrait lancer en appel à projet, à porteur de projet. Et après, on a la régie agricole de Candie, bien sûr, qui est le phare régional. Voilà, et on est une des seules villes, grosses villes, puisque c'est la mairie de Toulouse, hein, Régie de Candie, c'est
oui,
mairie
c'est,
de Toulouse,
c'est une régie directe,
à avoir une régie directe, voilà, tout à fait.
Alors, Toulouse Métropole a été lauréate en 2018 du programme national pour l'alimentation avec un projet rapprocher les consommateurs de la métropole des producteurs régionaux, c'est un peu ce dont nous venons de parler, et elle s'est engagée dans un projet agricole et alimentaire pour apporter une réponse territoriale aux enjeux de l'alimentation durable. Quelles sont les grandes lignes et les objectifs de ce projet, peut-être même les enjeux?
Mais les enjeux du projet, au-delà de l'agriculture et de l'alimentation à l'échelle de Toulouse Métropole, sont d'abord économiques, 350 exploitations agricoles, 4000 emplois agroalimentaires et le maintien d'une activité agricole rémunératrice tout de même. Ensuite, c'est environnemental, ressources en eau, biodiversité, on peut parler, changement climatique, de santé, qualité sanitaire des aliments, habitudes alimentaires, socio et culturelles, puisqu'il faut travailler aussi sur l'accès à l'égalité d'une alimentation saine et durable, le lien social, la gastronomie aussi. On a la chance d'avoir quand même beaucoup de restaurants, notamment dans notre belle ville rose, petits, grands, étoilés, pas étoilés, où on retrouve quand même de bons produits locaux. Donc là aussi, on a un travail à faire avec la restauration pour encore plus améliorer comment les identifier, comment créer un parcours de restaurant. Quand je dis gastronomique, ce n'est pas nécessairement étoilé. Hein. La gastronomie, ce n'est pas... Donc voilà, on a tout un travail d'identification à faire pour que les personnes s'y reconnaissent et puis avoir les commerces aussi, de fermiers, des commerces de producteurs. Je rappelle que dans le cadre de notre action commerce à venir que l'on a à la ville de Toulouse, il y a 3-4 ans, on a implanté un boucher rue Bayard, par exemple, dans un local municipal, avec, c'est un producteur, M. Desroches, qui produit dans le Volvestre, qui a monté cette boucherie de produits locaux, enfin en viande notamment, sur la rue Bayard et qui marche très très bien. Donc là aussi, c'est ce lien à faire avec les producteurs. Il n'y a pas que les marchés locaux, il y a aussi les commerces, tout un tas d'idées que l'on va mettre en œuvre collectivement.
Est-ce qu'il y a d'autres actions sur lesquelles s'appuie ce projet agricole et alimentaire pour atteindre les objectifs que vous venez de détailler?
On a la préservation du foncier à faire aussi, foncier agricole, parce que sans foncier, sans terre, on ne peut pas cultiver. La restauration collective. On travaille au fur et à mesure des renouvellements d'appels d'offres. On travaille sur les marchés pour savoir comment on pourrait avoir encore plus de produits locaux au sein de la restauration collective. Dès que j'ai une centrale de Toulouse, mais je souhaite travailler avec la restauration collective autre, dans les grosses entreprises, avec le CHU, il faut mettre les gens autour de la table. Et ça, c'est un peu le rôle aussi d'Érable 31 auquel je le demande. Il faut travailler sur la logistique, la structuration des filières et sur la sensibilisation et l'accès de tous à une alimentation beaucoup plus saine. Et il faut communiquer. Il faut apprendre aussi aux gens à cuisiner parce que vous pouvez avoir un bon produit, mais quand on a un bon produit, il faut savoir le cuisiner. Donc là aussi, sensibiliser les personnes et les former
sur la cuisine. Il y aura des actions dans le domaine aussi.
Tout à fait.
Vous avez parlé de dynamique collective. Quels sont les acteurs que vous avez associés à cette dynamique collective? Vous avez parlé d'Érable 31. Qu'est-ce que c'est Érable 31?
Oui, Érable 31 fait partie d'une fédération nationale. Il travaille beaucoup sur l'accompagnement des agriculteurs en bio, notamment, plus précisément, pour nous, on a un lien avec Toulouse Métropole sur le bio, sur l'accompagnement en bio. Voilà, ce sont des acteurs, il y a Jardin de Cocagne, il y a Nourrir la Ville qui s'est créé, qui fédère plusieurs associations, parce que c'est un monde très riche, mais on aurait vite tendance à s'éparpiller. Donc, il faut arriver à regrouper tout ça. Nourrir sur la Ville, c'est ce qu'ils ont fait, je les ai reçus ce matin justement, on va travailler avec la région, parce que là, je crois que main dans la main, on doit travailler ensemble. Il faut arrêter que chaque collectivité ait son idée. Là, il faut la travailler ensemble. Dans l'alimentation, la région a toute sa place. Donc, ce sont des chefs de file, ils ont compétences premières sur l'alimentation. On va travailler avec l'État aussi, la DDP, la DRAF, pour voir comment l'État peut nous accompagner, peut nous simplifier les procédures administratives, pour nous amener de l'argent sur certains projets, puisqu'il faut en parler aussi, mais on a besoin d'argent. Et puis la Chambre régionale d'agriculture, puisqu'on va travailler quand même aussi, même si on est sur le territoire métropolitain, quand je parle de relations avec le milieu rural, c'est aussi la Chambre régionale de l'agriculture qui doit nous accompagner sur les autres départements pour aller chercher les bons produits, pour fédérer les producteurs, pour les accompagner. Voilà, donc c'est vraiment tout ce monde qui va être mis en place très rapidement. On va faire une réunion très prochainement pour arriver à dire, voilà, eh bien, la métropole a ce projet, a cette feuille de route, c'est comment ensemble on peut être à court terme, moyen terme et long terme, efficace sur tel et tel projet. Il faut vraiment faire du pragmatisme dans l'agriculture.
Il y a un autre acteur dont nous avons peu parlé jusqu'alors, c'est bien sûr le grand marché Mines Toulouse-Occitanie. Quel est son rôle dans ce contexte ?
Le marché d'intérêt national de Toulouse-Occitanie est un outil de Toulouse Métropole qui regroupe en un seul lieu les acteurs de l'approvisionnement, les producteurs, les grossistes, les coopératives, les courtiers, voilà, tous les acteurs gravitant autour de l'alimentation et de la distribution de produits alimentaires, bien sûr, restauration, commerce de bouche, des fleuristes, la restauration collective. Et la concentration de ces services aux mines, finalement, notamment logistique, peut participer à la structuration des filières et à une meilleure organisation de l'offre et de la demande. Des mutualisations ou des synergies peuvent être trouvées, que ce soit du côté des producteurs ou du côté des acheteurs. Donc finalement, c'est un outil qui est au service du changement d'échelle pour une alimentation de qualité accessible à tous.
Il a aussi un rôle d'une espèce de courroie de transmission entre l'amont et l'aval.
Tout à fait, c'est là où les producteurs peuvent venir soit sur le carreau, soit à côté des grossistes apporter leur production. Et on a les commerçants de proximité, qu'ils soient sur des marchés de plein vent ou commerce sédentaire, qui peuvent venir s'approvisionner à cet endroit. Donc c'est un lieu unique qui relie l'amont et l'aval, comme vous l'aviez dit.
Oui, parce que la plupart des marchés de plein vent à Toulouse sont approvisionnés par le grand marché.
95% de ce qu'on trouve sur les marchés, 90% provient bien sûr du marché d'intérêt national. C'est pour ça que, en tant que président national de la Fédération des marchés de gros, je suis un fervent défenseur de ces outils économiques. C'est pas la peine d'aller créer d'autres plateformes, de les multiplier, alors qu'on en a déjà des existantes. Et à partir de cela, on fait un maillage. En région Occitanie, vous avez 4 marchés, Montauban, Toulouse, Perpignan, Montpellier. Avec ces 4 marchés, effectivement, on peut graviter et faire qu'il y ait des liens entre cette région, au sein de cette région, sur l'alimentaire.
Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité, même du vœu, d'installer de nouveaux agriculteurs dans les espaces agricoles de la métropole, évidemment en sélectionnant un peu les terres qui pourraient être intéressantes à cultiver. Comment vous allez les aider ? Ça va être très souvent, je suppose, des jeunes agriculteurs. Comment vous allez les aider à s'installer ? Comment vous allez les accompagner les premières années ? Parce qu'ils en auront sans doute besoin.
Mais ça sera un accompagnement collectif, donc tout l'intérêt que la métropole soit l'acteur fédérateur. Sur cette thématique-là, on va travailler bien sûr avec la région, main dans la main, puisqu'eux ont toutes les aides économiques liées à l'alimentation, puisqu'ils ont la compétence agricole. On a la même vision de ce développement de l'alimentation, donc on va travailler en commun, mais aussi avec l'État, qui doit nous accompagner. La Chambre régionale d'agriculture, qui regroupe toutes les chambres d'agriculture des différents départements, donc ça va être facilitateur. Les associations, comme Nourrir la Ville, par exemple, qui regroupe tout un tas d'associations, pour savoir à quel moment chaque acteur doit intervenir. Vous voyez, nous, sur Toulouse Métropole, on aura le foncier, la région peut aider sur les aides économiques, la Chambre régionale d'agriculture peut nous dire, en lien avec les associations, la faisabilité des projets, accompagner le porteur de projet, jusqu'où, comment, enfin, voilà. Donc, il faut que tout le monde soit en ordre de marche, en même temps, pour accompagner au mieux tous ceux qui souhaitent se lancer dans le maraîchage, par exemple. Et il faut revaloriser aussi, et ça sera notre job, de communiquer sur le métier de maraîcher, sur sensibiliser les gens, et puis surtout que l'éducation nationale, par contre, là aussi, fasse un effort pour mettre en avant beaucoup plus les métiers de l'agriculture.
Exactement. Revaloriser ces métiers-là.
Je suis allé au lycée d'Osville l'autre jour, et c'est vrai qu'il y a ces journées agricoles, c'était le lancement de l'année de l'enseignement agricole, et c'est vrai que le Graf a eu un bon discours, le directeur régional des affaires agricoles, en disant que c'était des métiers quand même très intéressant, très passionnant et qu'il fallait effectivement les soutenir, les accompagner, les valoriser. Voilà, et ça aussi, c'est un peu notre rôle à nous, élus locaux.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se manifestent pour éventuellement s'installer en agriculture, biologique ou pas d'ailleurs, dans les espaces de la métropole ?
On en a quelques-uns, mais c'est pas pléthore. Je crois qu'il faut qu'on communique, il faut qu'on travaille aussi avec les lycées professionnels, les lycées agricoles. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y a aussi des personnes qui sont en reconversion. C'est pour ça qu'il y a des jeunes et des moins jeunes. reconversion, des personnes qui veulent arrêter, qui veulent se lancer. Mais entre l'idée qu'on s'en fait et puis la réalité du terrain après, il y a un monde. Donc c'est pour ça que la formation, l'implication de tout le monde est nécessaire pour accompagner au mieux, et qu'il n'y ait pas un peu le mou, comme on dit, pour que cette personne passe le cap le plus difficile pour après se lancer.
Qu'elle prenne la mesure de ce à quoi elle s'engage.
Exactement.
Parce qu'évidemment, il y a tous les bons côtés, l'environnement, la nature, toutes ces choses-là, mais ce sont des métiers qui sont aussi physiques et difficiles.
Difficiles, vous savez, quand vous allez vendre sur le marché de gros, il faut se lever à 2h, 3h du matin, charger le camion. Enfin voilà, c'est pas des métiers, c'est pas juste arriver, parce qu'on voit souvent, même sur les marchés de plein mal, on voit souvent l'étal là, à 7h du matin.
T'es prêt.
Enfin, il faut tenir jusqu'à 13h, 14h, ensuite l'après-midi il faut ranger, il faut aller recharger, il faut se coucher de bonne heure, il faut partir tôt dans la nuit pour aller soit s'approvisionner sur le marché de gros, ou soit charger le camion à l'affaire. Enfin, c'est quand même complexe, c'est pas juste vendre nos trois tomates comme ça et puis on part.
Et puis l'hiver, quand on arrive, il fait très froid.
L'hiver, ou quand il pleut, Et avoir un jardin potager, c'est sympa. Quand il fait beau, qu'on ramasse les tomates l'été, c'est sympa. Mais après, il faut travailler la terre, c'est tout un travail.
Une dernière question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre précisément. À quel degré d'indépendance ou d'autosuffisance alimentaire une métropole comme Toulouse peut arriver, et ceci à l'horizon de, 15 ou 20 ans?
Alors, l'indépendance alimentaire, pour la métropole, n'est pas un objectif. Nous, on parle plutôt en termes de résilience et d'aménagement du territoire. Et nous allons chercher à produire et transformer davantage l'alimentation qui arrive dans l'assiette des Toulousains. Parce que nous restons quand même un pôle urbain, il faut être réaliste. Et on préfère travailler plus aussi sur les complémentarités avec les territoires ruraux. Parce que certains opposent la ruralité à la métropole. Moi, je crois qu'il ne faut pas les opposer, ils sont complémentaires. À la métropole, on a la richesse. Dans le monde rural, ils ont de la richesse. Et bien, ces richesses doivent se mutualiser. Et la richesse métropolitaine doit accompagner le développement du rural. Et la richesse qu'ils ont dans le rural en termes d'alimentation doit venir approvisionner la métropole. Donc voilà, c'est cette complémentarité sur laquelle on préfère travailler.
Affaire à suivre donc. Il faut maintenant conclure cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Jean-Jacques Bolzan. Ce sujet de l'agriculture périurbaine, des circuits courts et très actuel, il devrait l'être de plus en plus dans les années qui viennent. On sait qu'il peut apporter beaucoup de solutions à la fois à la crise du monde agricole et pour faire baisser l'empreinte carbone de notre territoire. J'espère que notre discussion aura permis d'apporter une vision globale de ce qui existe déjà dans la métropole toulousaine et de donner des informations sur les projets en cours et les actions qui sont menées dans ce domaine. Il y a moyen de connaître ces actions et ces projets dans le détail en consultant le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie Mission, rubrique Développement durable, puis sous-rubrique Agriculture et alimentation. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un autre numéro de Métropole et vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.